ceux qui parlent des réchauffements climatiques, là, puis que ça a un impact en 2000, là. J'ai un article devant moi qui date du 26 décembre 1964. Il y a presque 60 ans, dans un journal de Sherbrooke, en Estrie. Un Noël sans neige, le mercure oscille dans les 60 degrés. Faut dire qu'à l'époque, on marchait en Fahrenheit, mais les gars, 60 degrés Fahrenheit, c'est 15 degrés Celsius. En 1964, c'était comme ça. Puis gars, on voyait des gens sur une terrasse.
Ben oui.
Avec la terre extérieure, puis pas de neige, puis c'était correct.
Notre mémoire est sélective. Hein.
Ouais, on se croirait beaucoup plus à Pâques qu'à Noël, commentaient les gens à la sortie de la messe de minuit. Et ces personnes n'avaient définitivement pas tort. L'exceptionnelle température des derniers jours avait fait fondre le peu de neige qui était déjà tombé dans les cantons de l'Est depuis le début de la saison froide, même plus pendant toute la journée de Noël où le mercure a oscillé dans les 60 degrés Fahrenheit. 1964. C'est des cycles comme ça. Ça arrive. Des journées plus chaudes, des journées moins chaudes. Inquiétez-vous pas. Hier, ben, ça a fondu. Faut regarder à l'extérieur, ça a-tu l'air d'un 19 décembre? Ben non, mais c'est des choses qui arrivent.
C'est la nature. Hein?
Voilà, exactement. Puis est-ce qu'on contrôle vraiment la nature? Pas tant. Pas sûr.
Soyez alerte. La chronique que voici pourrait vous déranger. Tel le moustique qui pique. La chronique du moustique avec le sismologue à la retraite de Lucac, Reynald Duberger.
Non, mais mon lestin, moi, ce qui tombe.
Je voulais justement parler de cet article-là parce qu'on parle avec quelqu'un qui, lui, réchauffement climatique, il y a des gros doutes là-dessus. Reynald Duberger, bienvenue.
Bonjour, j'ai pas de doutes sur le réchauffement, j'ai des doutes sur ses causes et sur son intensité. C'est pas pareil.
Voilà.
Tout à fait.
Reynald, tu demeures dans la région de Québec.
Oui, et puis hier, la rivière, je l'ai surveillée pas mal. Parce qu'il y a 3 ans, à Noël, on avait été éprouvé. Le débit est monté pas loin de 1000 mètres cubes à la seconde. Hier, ça montait à 700 quelques mètres cubes à la seconde. Mais dans mon secteur à moi, il y a des gens, plusieurs personnes qui ont été évacuées.
Bon, OK. En prévention. L'autre question que je voulais te poser, est-ce que tu chauffes au bois?
Moi, j'ai un foyer qu'on appelle un insert, qui est réglementaire, qui est relativement moderne. Je ne le chauffe que pour des fins d'ambiance. Je chauffe la maison de l'électricité, puis j'ai aussi une thermopompe. Donc, non, j'utilise pas beaucoup de bois. Moi, je l'utilise quand j'ai de la visite, puis que je veux de l'ambiance l'hiver, je l'allume, mais pas plus que ça.
Parce qu'il y a une loi qui a été instaurée du côté de la capitale nationale que prochainement, mais on n'aura plus le droit de chauffer au bois. Alors, toutes les gens qui veulent...
Chauffage assassin.
L'est-il vraiment?
Oui. En fait, c'est notre cher maire, monsieur. Moi, je n'appartiens pas à Québec quand je suis à Bois-Châtel.
Bois-Châtel, c'est vrai, c'est vrai.
Je suis très heureux d'être un citoyen de Bois-Châtel plutôt que de Québec. On a des relations avec la municipalité qui sont beaucoup plus humaines. On paye moins de taxes, enfin, c'est plus facile. Mais à Québec, effectivement, là, le maire Marchand prévoit d'interdire certains poêles au bois. Mais tu fais référence probablement à un article qui est sorti la semaine dernière accusant le chauffage au bois comme étant responsable de 3 fois plus de décès que les accidents de la route. Là, c'est une étude complètement bidon. Je vais vous expliquer pourquoi. Okay. Si vous lisez l'article, vous allez voir que c'était fait par modélisation. On a fait des modèles. Exactement la même démarche qu'on utilise pour supposément prévoir le climat qu'on aura dans 50 ans puis dans 100 ans. C'est de la foutaise. Si on avait pris, par exemple, dans un quartier des personnes qui vivent pendant 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans, avec tant de cheminées qui émettent des particules fines à cause de la combustion, puis ensuite étudier l'incidence des cancers de poumons sur ces gens-là, là, ça aurait été une étude crédible, comme on a fait pour la cigarette, par exemple. Mais là, c'est une étude de modélisation, donc poubelle, ça ne vaut absolument rien. Moi, je mets Santé Canada au défi de me présenter un patient, une autopsie d'un patient qui prétend être décédé suite à l'inhalation de particules fines émises par des cheminées.
Okay.
Il n'y en a pas au Canada.
J'imagine qu'il n'y en a pas. Ouais.
On va passer à mon autre sujet cette semaine. Je voulais vous parler de la COP28.
Oui.
c'est une COP assez spéciale, d'abord par la popularité. Il y a eu plus de 80 000 personnes qui se sont pointées là. Imaginez combien que ça a dû prendre de chambres d'hôtel, puis le prix que ça a dû coûter. Puis étant donné la distance de Dubaï entre les principales villes de la planète, combien de gaz à effet de serre ça a dû générer dans les jets privés, dans des jets publics, pour amener ces 80 000 personnes-là pendant presque deux semaines à Dubaï. Le thème principal, c'est évidemment l'abolition des énergies fossiles. C'est la bête noire, c'est ce qui cause des émissions de CO2. Donc, la vaste majorité des gens qui étaient là étaient pour l'abolition des énergies fossiles. Je pense, par exemple, à l'ONU, à travers son organisme qui s'appelle le GIEC, des organisations non gouvernementales, des ONG, des privés aussi qui voulaient s'assurer qu'au tournant du siècle, on n'aura pas d'augmentation de température supérieure à 1,5 degré Celsius. Et pour cela faire, il faut abolir l'utilisation des énergies fossiles que sont le pétrole, le gaz et le diabolique charbon.
Oui.
Mais de l'autre côté, il y avait aussi, mais ils étaient, pardon, minoritaires, les pays producteurs de pétrole. Eux ne sont pas laissés faire. Il y avait des grands absents là-dedans, là, c'était les producteurs de charbon, mais on en reparlera. L'Inde et la Chine, à eux seuls, par leur consommation de charbon, sont la première source de CO2. Deux tiers des émissions provenant du charbon, c'est à cause de l'Inde et de la Chine. La Chine, ils ont des centrales au charbon. On estime à peu près un millier à l'heure actuelle. Ils en développent à tous les mois des nouvelles centrales au charbon. L'Inde ouvre des mines de charbon aussi régulièrement. L'Inde est un des continents les plus riches en charbon. Et récemment, quelqu'un me disait, qui est rentré d'Afrique, là, il y a du gaz dans les sous-sols africains en quantité colossale. Je pense, par exemple, au Botswana, au Zimbabwe. Le Zimbabwe est un pays que je connais parce que je l'ai déjà visité. Et il y a plusieurs années, des compagnies comme Exxon sont allées explorer pour le pétrole. Ils n'ont pas trouvé de pétrole, mais ils ont trouvé du gaz. Mais le gaz ne les intéressait pas. Maintenant, le gaz est devenu rentable. On sait que Donald Trump a rendu son pays, les États-Unis, indépendant énergiquement. Oui. Grâce à l'exploitation des gaz qu'on appelle de schiste, là, qui sont en réalité des gaz de shale. Et à mon avis, une des façons les plus importantes de sortir l'Afrique de la misère, c'est d'exploiter le gaz qui est souterrain en Afrique. Et c'est très important. En 1970, les pays de l'OCDE, dont nous appartenons, auxquels nous appartenons, là, émettaient les deux tiers des gaz à effet de serre. Maintenant, ce n'est qu'un tiers, puis ça continue de développer. Mais à ce sommet, à ce COP28, à cette grande messe de COP28, les pays en développement ont montré qu'ils se fichaient complètement des recommandations, et avec raison, du GIEC et de l'ONU, et enfin des groupes qui font pression sur eux. Ils ne veulent pas renoncer aux énergies fossiles, car pour eux, c'est une question de vie ou de mort, puis je pèse mes mots quand je dis ça, parce qu'il y a une relation directe entre les pays qui ont très peu d'accès aux ressources énergétiques de carburants fossiles et le nombre de morts, surtout d'enfants et de jeunes. Donc, plus un pays maîtrise son énergie, a de l'énergie pour produire de l'électricité, moins il y a de mortalité. La Chine émet quatre fois plus de CO2 que l'Inde, mais ils ont fait beaucoup de progrès grâce à la construction, comme je disais tout à l'heure, d'à peu près 1000 centrales au charbon, ce qui les a permis de sortir dans beaucoup de régions de la misère. Il y avait, avant qu'il y ait des mines de charbon puis des centrales au charbon, il y avait plus de 1,5 million de morts d'enfants par année en Chine. Maintenant, c'est presque zéro. L'Inde a presque la même population que la Chine actuelle, puis ils ont à l'heure actuelle, il y a à peu près 1 million de morts par année d'enfants et de jeunes qui auraient survécu s'ils étaient nés en Chine ou dans un pays développé. Donc, l'Inde et les pays qu'on appelle sous-développés veulent imiter la Chine. Donc, ils veulent ouvrir de plus en plus de mines de charbon. Mais si on les force à diminuer leurs émissions de CO2, c'est comme si on les forçait à tuer leurs enfants. Donc, c'est bien important.
Et qu'est-ce que la COP28 dit de ça? Entre eux autres, ils doivent se faire une histoire, quelque chose. Là, pour
en fait, la COP28, ils émettent des vœux pieux. Et puis, il n'y a aucune contrainte qui est imposée aux pays émetteurs de gaz à effet de serre. Alors, ils peuvent sortir de la COP28 en ayant fait des belles vacances dans un pays intéressant à visiter, mais ils ne seront pas là, ils ne seront pas contraints à des limitations. Il n'y a pas d'amende, autrement dit, il n'y a pas de pénalité s'ils ne respectent pas leur quota d'émissions de gaz à effet de serre. Et la semaine dernière, j'étais à Paris à la réunion annuelle de notre association des climato-réalistes auquel je fais partie du comité scientifique, moi, de cette association-là. Et j'ai revu des collègues comme François Gervais, Vincent Courtillot, Christian Girondeau, qui ont écrit pas mal de livres là-dessus. Et il y a une présentation qui m'a impressionné, c'est celle de Vincent Courtillot, qui est l'ancien directeur de l'Institut de physique du globe de Paris, un géophysicien de renommée internationale, membre de l'Académie des sciences, c'est pas rien. Et puis, il est encore actif. C'est un gars à peu près de mon âge, mais c'est un professeur, moi, que j'admirais quand j'étais professeur à l'UQAC. Je donnais des cours de géophysique. Je lisais ses articles dans les revues scientifiques et j'étais fortement impressionné. Et Vincent travaille présentement avec d'autres collègues sur l'influence de 4 grosses planètes sur l'axe de rotation de la Terre, puis il a mis en évidence des concordances entre des changements climatiques puis des changements de l'axe de rotation de la Terre à cause de l'influence de ces 4 planètes-là. Et ça, c'est une partie importante. Ça montre que c'est pas l'homme qui change le climat. Je dis pas que l'homme n'a pas d'influence, mais son influence sur le climat, elle est insignifiante comparée à ce genre de cycle-là qu'on appelle le cycle de type Milankovitch, aux activités volcaniques sous-marines, hydrothermales, à la formation de nuages en basse atmosphère, aux rayons cosmiques, enfin, au soleil. Je viens de, juste pour terminer, si les auditeurs s'intéressent à cette question-là, 3 livres qui viennent de sortir, celui de mon ami Benoît Riteau, président de notre association climato-réaliste, qui s'appelle « Mythes et légendes écologistes », c'est disponible sur Amazon.ca. L'autre livre de mon ami François Gervais, « Le déraisonnement climatique, climat, énergie, ressources, revenir à la science pour éviter la ruine ». Et finalement, un livre que j'ai reçu hier, formidable, qui s'appelle « Résoudre le puzzle du climat, le rôle surprenant du soleil ». Et la préface est de mon ami François Gervais. C'est un livre de 450 quelques pages, écrit en caractère très fin, avec des centaines de graphiques. Si vous voulez vous informer sur le rôle du soleil sur le climat, c'est l'ouvrage qu'il faut acheter. Et tout ça, c'est disponible sur Amazon.
Rénald, là-dessus, merci beaucoup. On va te souhaiter une bonne période des fêtes.
Oui. Puis on se retrouve joyeux en Noël 2000... à vous tous.
Oui.
Et on se retrouve au mois de janvier.
Au mois de janvier. Merci beaucoup.
Salut, messieurs.
D'accord. Bye-bye.
Merci pour tout.